J'ai juste une petite question. Au niveau de votre dernier point, est-ce que vous pensez que les autorités académiques sont prêtes pour ça, pour intégrer donc dans les manuels des activités d'éveil aux langues? Alors peut-être qu'elles le sont en Suisse, je ne sais pas, en France, quelle est la situation? Est-ce qu'on est... Parce que quand on voit le rapport Bénédicte, c'est ça, ouais. On peut quand même se demander, au niveau des personnes qui produisent ce genre de texte, est-ce qu'on peut avoir en même temps des personnes qui proposent ce genre de texte et à la fois d'avoir donc des autorités qui sont prêtes à inclure ces activités et cet espace pour les approches plurielles.
Alors je répondrai très clairement, c'est un combat au bras le corps. C'est un combat difficile. Et même en Suisse, on est loin de le gagner. Je vous dis, quand on a fait ce projet, il n'a pas été accepté celui-là. Et puis, en plus, en Suisse romande, on vient de renouveler la collection des moyens d'enseignement pour le français et on a acheté des moyens français. Ils ont décidé qu'il n'y avait plus assez de sous pour fabriquer nos propres moyens. Donc, ils ont décidé d'aller voir ce qui existait sur le marché. On a fini par acheter des moyens français, ce que je dois avouer, je le regrette. Et évidemment, il n'y a pas une grande place pour la diversité. On n'a pas eu notre mot à dire, évidemment. On a déjà dû négocier pour changer quelques termes parce que la terminologie grammaticale n'est pas la même. Par contre, les Suisses allemands ont eu le courage et sont allés dans cette direction. Alors, je crois que c'est un combat de tous les instants à mener d'abord avec les auteurs de moyens d'enseignement, qui sont souvent des gens de notre milieu, qui sont des gens extrêmement, qui peuvent être extrêmement ouverts et intéressés à des idées nouvelles. Que ce soit pour le français, que ce soit pour les mathématiques, etc. Il y a des travaux qui sont faits, il y a des moyens extrêmement intéressants qui sont faits. Pour la lecture, il y a des choses intéressantes qui sont faites. Si je pense à des gens comme Guagou, Sebe, qui travaillent sur des moyens d'enseignement de lecture, c'est des gens qui sont certainement ouverts à des réflexions comme ça. Peut-être pas qu'ils accepteront tout, mais ils accepteront déjà des petits pas. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. D'autant plus qu'en France, les moyens d'enseignement, finalement, il y a les directives nationales, puis après, on peut faire, vous pouvez même les faire vous-même. Lancer des collections. Mais c'est pas gagné. Hein.
De donner une réponse, Jean-François a évoqué le CARAP, donc, et le CELV, il y a un groupe de travail au niveau européen pour la diffusion des approches plurielles dans chaque pays. Hein, on a travaillé au mois de novembre dernier, donc pour ma part, je suis ce qu'on appelle correspondante principale pour la France, et avec Michel Cornelier, on a fait des approches au niveau des institutionnels pour essayer d'avancer sur cette question, et nous avons des alliés dans l'inspection générale, nous avons des alliés, simplement que même ces alliés de l'inspection générale nous disent que c'est difficile. Donc il y a deux dynamiques. Il y a approcher institutionnellement les problématiques. Et puis il y a aussi toutes les activités qui vont se développer ou qui se développent sur le terrain, qui finalement font une forme d'irrigation et qui à un moment donné prendra peut-être en considération, que l'institution pourra prendre en considération.
Oui, je voudrais répondre à votre question d'il y a un instant. Il me semble que, enfin, et d'une manière très française, vous confondez l'initiative individuelle de création des manuels, qui est l'objet d'un marché privé, et la reconnaissance institutionnelle de ces manuels. Alors, c'est sur ce jeu, en fait, entre la proposition privée et la reconnaissance par l'institution qu'on peut jouer. Même si... Comment dire, le cadre mental ou l'idéologie régnante restreint plutôt les initiatives parce qu'on se dit toujours est-ce que c'est dans les programmes, etc. Les programmes sont suffisamment souples et contradictoires d'une certaine façon ou vides sur ces notions pour qu'on puisse les intégrer soi-même. Et d'autre part, du point de vue des éditeurs, il y a une course pour vendre ces produits. Et le jour où on convaincra un éditeur qu'il a un intérêt économique à rajouter ce plus dans son cours, dans son manuel, je veux dire, de maths, de sciences, de toutes choses comme ça, on verra comment ils s'en empareront. Mais évidemment, ça n'empêchera pas que, à notre niveau individuel, ou d'enseignants ou de formateurs, on puisse faire soi-même ce travail, en particulier en sautant toutes ces étapes et en allant à quelque chose qui est parfaitement institutionnalisé, qui est le CARAP et le travail du CELV sont des éléments institutionnels qui sont parfaitement opposables à toute institution, enfin, un représentant de l'institution, même si la plupart du temps, au départ, il ne veut pas en entendre parler. Mais vous n'êtes pas dans votre tort en vous référant à ça. C'est lui qui est dans son tort. Maintenant, c'est bien joli de pas, quand on a raison contre tous, quoi. D'où la nécessité de s'impliquer. Voilà, je voulais compléter.
Merci, bonjour. Je voulais d'abord signaler, parce que vous ne le ferez pas, le glossaire des langues et lexique plurilingue. Voilà. Et le travail auquel vous avez participé sur l'éducation aux ouvertures aux langues de l'école. Voilà. Et je voudrais aussi que vous, une fois que j'ai perdu le fil. Les caractéristiques des langues d'origine sont prises en compte. Comment évolue le statut de l'erreur de la langue cible? S'il y a des recherches là-dessus, on est l'état de recherche.
Quelle langue cible?
Enfin, la langue de scolarisation, pardon.
D'accord. J'ai pas d'études en tête, mais des observations. Alors là, il y a encore un grand travail à faire qui me semble être au niveau de la formation. Hein, pas mal. C'est-à-dire que l'impression que j'ai, c'est que on a beaucoup d'enseignants intéressés, on a beaucoup d'enseignants qui n'ont jamais ouvert le livre, hein, mais on a beaucoup d'enseignants intéressés, un certain nombre qui sont passionnés même, mais pour les intéressés, ceux qui sont ouverts, ce qu'on constate, c'est que ça reste un domaine un peu à part, ces activités, ces approches plurielles, c'est des moments un peu à part. Et ça a de la peine, et là le travail présenté par Patricia hier est fondamental, ça a de la peine à toucher des fois le rapport à la langue française. Dans la question de la norme, par exemple. C'est pas toujours nécessairement lié, y compris en tant que langue de scolarisation et donc du statut de l'erreur. Les enseignants peuvent être à la fois très ouverts à la diversité langagière, au vrai sens du terme, hein. Très, très intéressés à faire un certain nombre d'activités d'éveil aux langues ou d'autres dans leur classe, les faire, hein, et là être très, très accueillants, par exemple pour les langues de la migration, pour les savoirs des élèves, et ne pas nécessairement reporter cela dans leur attitude quand ils travaillent le français, etc. Donc là, il y a encore un travail à faire sous le statut de l'erreur. Par ailleurs, donc je parle de formation parce que ça demande aussi une formation extrêmement forte, hein, il faut quand même dire. Dans l'idéal, l'enseignant idéal du point de vue de l'analyse d'erreur, c'est évidemment l'enseignant qui peut comprendre une erreur. Déjà par rapport à sa place dans le système, c'est ça l'analyse d'erreur, c'est être capable de comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans une erreur, c'est pas simplement de la mauvaise volonté comme ça, c'est la place dans le système. Mais l'enseignant ouvert au plurilinguisme, ce serait de se dire qu'est-ce qui est en jeu dans cette erreur qui peut mettre en cause la pluralité des langues. Hein? En quoi, ça a été évoqué hier aussi, par exemple, en quoi le fait que cet élève, pour revenir aussi à mon exemple des nasales en français, en quoi ce problème des nasales en français se pose particulièrement pour certains pays où il n'y a pas de nasales, hein, certains ressortissants de langue, hein, où il n'y a pas de nasales, après, etc. Puis tout en cours, l'enseignant, là, en analyse d'erreur, pourrait se dire, ah, ils font plein de fautes à N. Mais là, si je fais l'activité, ça va au contraire sensibiliser. Donc il y a un jeu à faire, mais on n'y est pas encore.
Oui, Laurence Morel, je travaille à l'UFM de Bourgogne, j'y suis enseignante-chercheur. Je voulais réagir aussi sur les demandes, la première question de la collègue au début. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Guylaine Haas, qui a travaillé dans EOL et qui a produit, enfin, nous avons produit des outils, qui vont entièrement dans le sens de ce que disait Monsieur De Pietro. Il se trouve aussi que je fais partie du comité éditorial de la collection Au Quotidien, et qu'il y a des éditeurs privés, certes, mais il y a aussi le CNDP et le réseau des CRDP. Et dans le réseau du CNDP, le CRDP de Bourgogne, qui pilote la collection Au Quotidien, qui est pilotée par une inspectrice, Madame Petro, on est plutôt sensibilisé à ces questions-là, sans doute par tout le travail qu'a fait aussi Guylaine, qui a été avant moi, j'ai un peu pris sa suite dans ce comité éditorial. Et donc, au contraire, je vous invite à faire des propositions en français et dans les autres disciplines qui prennent en compte cet aspect-là, parce que c'est une question sur laquelle on est en train de réfléchir dans ce comité éditorial, la question de la scolarisation des enfants de migrants et de la prise en compte justement de ces approches plurielles dans les documents didactiques et les ressources pédagogiques qu'on propose. Donc je crois qu'il y a un espace, il faut faire de l'entrisme. Alors bien sûr, cet espace, il s'ouvre parce qu'il y a des gens qui sont sensibilisés, hein, mais profitons-en. Voilà, je voulais le signaler, parce que si parmi vous, il y a des collègues qui ont des outils, des choses, il y a une maison d'édition qui n'est pas une maison d'édition privée et qui peut être tout à fait intéressée par ce type d'approche. Voilà.
Et puis en y allant modestement, hein, c'est pas en voulant trop mettre, parce que là ça va bloquer. Donc, oui, l'entrisme, il faut être stratégique.
Dernière prise de parole et après on fera la pause.
Oui, alors effectivement l'école est le lieu adapté pour expérimenter ces approches plurielles, bien évidemment. Nous on se confronte tous les jours à la difficulté de convaincre l'inspecteur à le prendre en compte et puis laisser les enseignants qui sont souvent engagés, passionnés, pour travailler sur des activités de ce type. Mais il n'y a pas que l'école. Il y a aussi les centres de loisirs dans lesquels il y a un espace et des animateurs qui peuvent mobiliser leurs compétences, leurs connaissances et puis se former à des activités de ce type. Je pense à la découverte de mon quartier. On prend toute une semaine pendant les vacances scolaires et avec les enfants, on va à la découverte de la diversité linguistique à partir du groupe et puis une activité développée par Elodie. Là. Donc voilà, il n'y a pas que l'école. Il y a aussi des centres sociaux. On peut faire de l'éveil aux langues avec des adultes aussi. Nous, on l'a expérimenté. C'est très intéressant pour briser la glace, avoir un groupe de discussion. Voilà. Et je crois que dans les centres de loisirs, dans les collectivités, il y a beaucoup plus de liberté par rapport à la formation et puis à l'animation.
Oui.
Notamment avec la réforme scolaire.
C'est important de le dire. Chez nous, par exemple, des lieux très intéressants, il y a beaucoup maintenant de bibliothèques interculturelles qui ont vraiment des livres dans les langues, les principales langues de la migration, mais dans le plus de langues possible, à la limite. Et ça peut être plusieurs milliers de livres. Hein. Donc ça devient très intéressant. Et c'est souvent des lieux où il y a des animations aussi.